Et si on en parlait ? Du temps, de l'information, des explications. Une émission présentée par Alexis Bachelet.
Vous êtes sur Radio Orient, dans l'émission « Et si on en parlait ?» en partenariat avec la revue politique et parlementaire. Et pour l'émission cette semaine, nous allons aborder l'actualité, qui est d'ailleurs une actualité longue, ça fait maintenant plusieurs mois qu'on parle de cette réforme des retraites. Et puis, après la crise sociale, on a peut-être, nos invités nous le diront, une crise politique, en tout cas une crise de la gouvernance, du gouvernement. Pour en parler avec moi, j'ai le plaisir de recevoir Virginie Martin. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes politiste, docteur en sciences politiques, également membre du conseil scientifique de la revue politique et parlementaire. Et vous avez, vous, votre analyse de la situation politique et sociale. Et finalement, vous dites on n'assiste pas à une démocratie mature. C'est-à-dire que vous avez l'impression qu'on a une accumulation de mauvais choix, de mauvaise gouvernance, que ce soit la relation au syndicat, la relation au Parlement, la verticalité. Bref, vous dites que c'est un condensé de dysfonctionnement de la Ve République, ce que nous vivons en ce moment ?
Ben un petit peu, oui. On sait que la tradition française n'est pas à la coalition, à la discussion, n'est pas à la discussion avec les partenaires sociaux notamment. C'est cet esprit social-démocrate dont on parle beaucoup à propos de l'Allemagne et que nous n'aurions pas, si vous voulez. Donc ça, c'est vrai que nous ne sommes pas dans cette culture de la négociation. Et là, je crois qu'on le voit plus que jamais par le passé, en tout cas un passé relativement récent, dans cette crise, effectivement, sur la réforme des retraites, qui, dès septembre, en définitive, s'engage mal. S'engage mal parce que le contexte est difficile, parce que l'Ukraine, parce que le Covid, parce que l'inflation, parce que les prix qui flambent. Et ça s'engage très mal aussi parce que l'exécutif choisit un véhicule législatif très particulier, c'est-à-dire le projet de loi de finances rectificative de la Sécurité sociale, qui est un véhicule législatif consacré normalement et exclusivement au budget, et qui permet surtout, et c'est ça qu'il faut comprendre, d'accélérer en fait toutes les procédures législatives. Ça permet de dégainer certains articles qui permettent de ne pas trop discuter du fond et de passer en bloc plusieurs amendements, et ça va permettre évidemment jusqu'au in fine de 49.3. Donc ce véhicule législatif, il n'est pas anodin de la part de l'exécutif, et il est un outil politique puissant, voire violent, en tout cas c'est comme ça que l'opinion publique in fine l'a pris.
Donc ce que vous nous dites finalement, c'est que ça a commencé très mal. Dans le choix de la procédure parlementaire, il y avait déjà une volonté d'aller vite, d'éviter le débat et peut-être déjà l'idée qu'il faudrait passer en force. Parce que finalement, on voit que depuis l'usage de l'article 49.3, on a eu une espèce d'accélération de la crise et qu'on est passé d'une crise d'abord sociale à une crise finalement politique.
Absolument, d'autant plus que dès le départ, en effet, les négociations se sont faites plus avec les Républicains, donc les partis politiques, en tout cas en l'espèce donc LR, que avec les syndicats. Ça aussi, c'est un problème. Rappelez-vous, dès que Elisabeth Borne a présenté sa réforme, tout de suite, il y a eu des négociations avec LR, alors un peu ci, un peu cela, un peu les amendements Pradier qui ont été pris, pas pris, etc. Mais en tout cas, il y a eu quelques petites négociations qui ont été faites avec les partis politiques. Mais c'est tout à fait étrange. Normalement, c'est avec les syndicats qu'on négocie ce genre de choses. Et effectivement, pour revenir sur la procédure législative et ce choix éminemment politique, effectivement, une loi classique cadre aurait été même nécessaire, parce que ça pose évidemment des questions de société profondes, la retraite. C'est la question du travail, c'est la question de toute une carrière, c'est la question de la vie. C'est pas juste quelque chose de budgétaire sur un budget en plus annuel. C'est aussi ça, c'est faire des économies annuelles, le projet de loi tel qu'il a été ficelé. Donc on voit bien, et c'est pour ça que on peut peut-être espérer une sortie de crise par le haut, si je puis dire. Le Conseil constitutionnel a les moyens tout de même de retoquer cette loi et peut-être de redonner de la respiration à la négociation. Parce qu'aujourd'hui, de toute façon, les deux parties prenantes principales, d'un côté l'exécutif et de l'autre côté les syndicats, sont de toute façon coincées dans leur position. Et Elisabeth Borne a beau dire hier soir « je tends la main à l'intersyndicale », tout de suite Franck Riester dit ce matin « de toute façon, on parlera de tout sauf de l'âge », alors que c'est bien le point de conflit.
Alors justement, est-ce que le fait d'être finalement en attente d'une décision du Conseil constitutionnel et les opposants à la loi souhaitent effectivement que la loi soit censurée, mais finalement c'est pas non plus le rôle du Conseil constitutionnel que de juger de l'opportunité de la réforme. Le Conseil constitutionnel, il va vérifier si effectivement la procédure choisie par le gouvernement a été la bonne.
Exactement.
Si elle est conforme à la Constitution, et
c'est ça
qu'on attend du Conseil constitutionnel, pas un jugement sur le fond ou l'opportunité, mais un jugement sur la forme juridique et sur le respect de la Constitution.
C'est pour ça que je mettais en lien la question du Conseil constitutionnel et celle donc du véhicule législatif qui a été choisi. C'est sur ce point principal qu'effectivement on pourrait considérer que d'un point de vue constitutionnel, il y a quelque chose, si vous voulez, qui ne va pas dans cette affaire, parce que ce n'était pas de toute façon le bon véhicule législatif et il n'est pas pris par terre et ce n'est pas d'un point de vue évidemment politique. On ne choisit jamais ce genre de choses sans intention politique, bien évidemment. Mais le Conseil constitutionnel, pour l'instant, il doit aussi aller vérifier des choses qui sont un petit peu aux côtés, aux marges, si je puis dire, l'emploi senior, voilà, ce genre de choses. Ok, mais sur le fond, de toute façon, est-ce que cette loi a été correctement engagée ou est-ce qu'elle ne l'a pas été, du point de vue aussi des institutions et du respect de la loi et de l'esprit de la loi.
Alors, le Conseil constitutionnel rendra sa décision le 14 avril, donc c'est encore dans 15 jours. Hein, donc, en attendant, la crise elle est toujours présente. Il y a des journées de mobilisation qui sont déjà nombreuses. Il y en a d'autres qui vont continuer. Hein, on est à une à deux par semaine depuis maintenant plusieurs mois. On sent aussi qu'à la tête de l'État, il y a, comme vous l'avez décrit, un flottement. Il y a une demande de rendez-vous réitérée de l'intersyndicale. On voit que le président de la République ne veut pas fermer la porte, mais en même temps, il dit quand même qu'il est hors de question de revenir sur les 64 ans. Qu'est-ce qui pourrait se passer dans ces 15 jours? Et est-ce qu'il va se passer quelque chose finalement en attendant la décision du Conseil constitutionnel?
C'est difficile à dire parce que on peut penser en tout cas qu'il va y avoir encore un pas de franchi dans la radicalisation de chacune des parties. De toute façon, le point vraiment de tension et de conflit, ce sont ces 64 ans. Parce que même en effet, quand des économistes, les syndicats aussi, d'autres personnes disent et écrivent très précisément comment on pourrait compenser les éventuelles pertes d'une réforme des retraites qui n'aurait pas lieu, ils disent bien qu'on peut le faire différemment, qu'on peut aller chercher l'emploi des seniors, qu'on peut aller chercher l'emploi des très jeunes, qu'on peut aller chercher l'égalité homme-femme, par exemple, qu'on peut aller chercher sur les cotisations patronales, sociales, etc. Donc on peut aller chercher cet argent ailleurs. Mais il y a comme un totem de la part du gouvernement, c'est 64 ans ou rien. Alors, est-ce que c'est un chiffre ou est-ce que ce sont est-ce que c'est de la monnaie supplémentaire qu'on est en train d'aller chercher? C'est ça la question. Et parce que si c'est de l'argent que nous sommes en train d'aller chercher, alors ça peut se trouver différemment. Mais si les 64 ans sont un totem et donc un tabou, effectivement, là, la discussion est complètement bloquée et il est à parier que ça peut devenir une sorte d'enquistement à la Gilets jaunes.
Alors justement, est-ce que effectivement la difficulté de convaincre les Français, c'est pas lié au fait que on a déjà un problème sur l'emploi des seniors? Il y a des sujets de pénibilité qui n'ont pas été traités, voire même qui ont été un peu détricotés dans le quinquennat précédent, et que finalement, cette mesure apparaît plus comme une décision d'ordre budgétaire. Le gouvernement essaye aussi de vendre un petit peu le risque de banqueroute. Enfin bon, c'est toujours un peu le discours quand il y a une pilule difficile à faire avaler. On essaye aussi de dire que c'est ça ou rien. Or, effectivement, les syndicats disent nous, on est prêt à discuter d'une autre réforme, mais pas celle-là.
C'est ça. Et surtout, enfin, si, je répète, si c'est budgétaire, l'argent peut se trouver différemment. Maintenant, si le point qui ne peut pas se résoudre, c'est la question des 64 ans, ça ne se résoudra jamais, d'une certaine manière. Donc il faut être clair, c'est où est-ce que ce sont ces 64 ans qui vont après, par effet de domino, faire gagner encore plus d'argent aux caisses de retraite et je ne sais quoi. Mais si c'est que ça, enfin, il y a vraiment un problème, parce que rationnellement, si on fait désenfler cette radicalité, rationnellement, l'argent peut se trouver différemment, il peut se trouver ailleurs. Après, la question aussi que ça révèle, c'est la souffrance au travail que les Français semblent éprouver. Parce que peut-être une bonne flexibilité, pas assez, j'en sais rien, peut-être un management extrêmement vertical, un peu à l'ancienne, peut-être aussi une pénibilité en effet du travail, peut-être des carrières qui ne sont pas assez aussi mouvantes et changeantes au fur et à mesure de la vie. Donc il y a aussi toutes ces questions qui sont à poser, parce qu'on dit beaucoup d'étrangers, ils partent à tel âge, tel âge, tel âge, mais d'abord les annuités sont tout à fait comparables à la France, c'est le premier point. Et deuxièmement, par exemple, dans certains pays, on peut, dès l'âge de 5 ans, 55 ans, ne travailler plus que 3-4 jours semaine, puis après plus que 3, plus que 2, etc. Et progressivement, on part en retraite. Donc on avait aussi toute une occasion extraordinaire de penser le travail. Et ça aurait été une opportunité extraordinaire, et ça aurait été, je trouve, pour Emmanuel Macron, une grande preuve de modernité, d'adaptation au monde qui vient, mais qui va, et aussi aux millennials qui arrivent sur le marché du travail, qui ont aussi une appréhension du travail, une représentation du travail très différente des plus âgés. Donc ça aurait été une occasion vraiment importante de parler travail, sociologie du travail, salariés, qu'est-ce que le travail aujourd'hui. Il y a toute une réflexion que nous, sociologues et politologues, on voit poindre et qu'on travaille. Et là, c'est une occasion complètement loupée, parce que c'est 64 ans et simplement une mesure budgétaire. Si c'est simplement une mesure budgétaire, des solutions alternatives peuvent être trouvées. Si c'est un totem, bah, ça sera 64 ans pour le meilleur et pour le pire.
Alors, pour l'instant, c'est plutôt pour le pire, parce que comme vous l'avez souligné tout à l'heure, on a atteint dans la société française un niveau de tension finalement assez rare quand même, hein, compte tenu de la durée, de l'ampleur et aussi du nombre de Français, parce que il y a évidemment les gens qui protestent, qui manifestent, qui font grève, mais il y a aussi les enquêtes d'opinion qui révèlent que plus de 2 Français sur 3 sont défavorables à cette réforme. Est-ce que c'est tenable en vérité?
Non, ce n'est pas tenable. Ça coûte aussi beaucoup d'argent, puisqu'il est beaucoup question d'argent et de budget. Là, on est en train de creuser le peu d'argent que cette réforme pourrait rapporter. Donc, c'est un peu paradoxal. Il ne semble pas qu'il y ait vraiment d'issue. Évidemment, le gouvernement et l'exécutif tablent toujours sur un pourrissement un petit peu... sa radicalité. Là, des éléments de langage commencent à être mis en place pour essayer évidemment de casser l'union de l'intersyndicale, parce que ça, c'est très important. Hein. Grâce ou à cause de cette réforme, les syndicats se sont retrouvés en première ligne. On avait vu, ils avaient été complètement dépassés par le mouvement des Gilets jaunes. On avait intégré les syndicats. Là, on les voit revenir de leurs absences, en fait. Et c'est vrai qu'ils montrent là à la fois une présence, à la fois une légitimité dans l'opinion et à la fois aussi une union. Et donc cette intersyndicale est très importante. Ça va aussi jusqu'à la Confédération Générale des Cadres aussi. Hein. Il ne faut pas avoir...
Oui, absolument. Les cadres sont dans le mouvement.
Voilà.
Oui.
Exactement. Monsieur Omri, il est très actif contre cette réforme de la retraite aussi, parce qu'il parle aussi, lui, pénibilité, aujourd'hui, le stress, les cadres qui doivent gérer aussi des pressions très importantes, qui ne sont pas physiques, mais qui sont psychologiquement parfois extrêmement dures aujourd'hui, on le sait aussi. On n'en parle pas assez, mais c'est vrai. Et donc, le gouvernement peut, évidemment, tabler sur le pourrissement, Et puis l'impossibilité de refaire encore des journées de grève et des journées de grève, parce que c'est du salaire en moins, c'est l'épuisement. Il y a aussi de la violence dans les manifestations. Donc là, on commence à avoir des témoignages qui disent « je ne vais plus en manif parce que j'ai peur ».
Alors justement, est-ce que il n'y a pas aussi... est-ce qu'on n'est pas en train de reproduire les erreurs qui avaient été commises au début du mouvement des Gilets jaunes, quand le président de la République utilise des mots assez stigmatisants, factieux, faction, en finalement donnant l'impression de confondre les manifestants qui globalement manifestent sans casser et une minorité qui parfois vient effectivement à la fin ou en cours de manifestation casser du mobilier ou brûler des voitures. Est-ce qu'il n'y a pas aussi ce risque de continuer à durcir finalement ce mouvement social, même si il se réduit en nombre?
Alors, il se réduit en nombre, oui et non, hein, parce que hier, la manifestation, ça a été quand même la deuxième plus importante. Hein, donc, il faut aussi arrêter de penser ce genre de choses et regarder les chiffres vraiment de manière froide et objective. Alors, l'intervention du président de la République la semaine dernière, à 13h, cette fameuse heure un peu étrange, était plus un enjambement du problème que le problème lui-même, en fait. Hein, rapidement, ça a été la vie politique continue, il y aura des fortes réformes demain, après-demain. Et c'est vrai que c'est assez classique chez Emmanuel Macron d'enjamber ou de tenter d'enjamber les crises. Et où quand, typiquement, les municipales n'étaient pas favorables, ne étaient pas favorables du tout, hop, il a enjambé le lendemain, le lundi matin, il y avait la conférence climat, voilà. Et on enjambe volontiers chez Emmanuel Macron. Mais l'enjambement, parfois, peut passer, mais parfois, il peut être considéré comme du mépris, d'autant plus que là, il y a tentative d'enjambement, et en plus, les factions, et effectivement aussi le tacle, si je peux dire, à Laurent Berger, le patron de la CFDT, qui a réagi plutôt dans l'apaisement et encore une fois la main tendue, et là, le gouvernement recommence effectivement à être très ferme. Et aujourd'hui, attention aussi, il faut voir qu'au sein de l'exécutif et du gouvernement, il y a quand même des tiraillements. Alors, on a dit à François Bayrou et aux gens du Modem de circuler surtout et de se taire, parce qu'ils commençaient à grincer des dents. Et rappelons-nous aussi, il y a 2 mois, je crois, François Bayrou donne une interview assez longue dans le journal du dimanche, et il dit à quel point cette réforme n'arrive pas au bon moment, qu'elle est mal ficelée et qu'elle ne correspond à rien. Il le dit lui-même. Donc aujourd'hui, sous-entendu, Macron doit absolument tenir ses troupes. Quand je dis tenir, c'est surtout les réduire au silence d'une manière ou d'une autre.
Merci beaucoup Virginie Martin pour avoir répondu à nos questions. Je rappelle Merci. Que vous êtes politiste, docteur en sciences politiques et aussi membre du conseil scientifique de la revue Politique et Parlementaire.
Vice-présidente, oui.
Et vice-présidente, absolument. Et on vous remercie d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Et on aura, j'espère, le plaisir de vous entendre à nouveau d'ici quelques temps. À très bientôt.
Merci.
Et si on en parlait ? Du temps, de l'information, des explications. Une émission présentée par Alexis Bachelet.
Vous êtes sur Radio Orient, dans la deuxième partie de l'émission « Et si on en parlait ?». Une émission cette semaine consacrée à l'actualité sociale et l'actualité politique. La crise sociale et la crise politique autour de la question de la réforme des retraites. Et on a le plaisir de recevoir Philippe Moreau-Chevrolet pour en parler avec nous. Bonjour Philippe.
Bonjour.
Je rappelle que vous êtes fondateur de MCBG Conseil, que vous avez aussi plein d'autres casquettes. Vous êtes auteur, professeur à Sciences Po. Et on a eu déjà souvent l'occasion de vous interroger sur les sujets d'actualité politique ou sociale. Ma première question, ça sera, est-ce que finalement, après... cette longue série de mouvements sociaux, de grèves qui sont reconduites semaine après semaine, et suite notamment au passage en force du gouvernement à l'Assemblée nationale avec l'usage de l'article 49.3, on est en train de passer, sans en avoir l'air, ou peut-être en ayant l'air, d'une crise sociale à une crise politique.
Oui, c'est le diagnostic qui a été fait en particulier par François Ruffin, qui était assez juste pour le coup, qui disait qu'on était passé, mais comme pour les Gilets jaunes, d'une crise qui au départ est sociale. Pour les Gilets jaunes, c'était, souvenez-vous, la question de la taxe carbone et la limitation à 80 km/h sur les routes. et on est passé à une crise politique. C'est-à-dire ce qui aurait dû être résolu à un niveau inférieur, avec une gestion politique, avec une gestion, on va dire, empathique de la situation, ne l'a pas été. Et donc, on se retrouve avec une crise politique majeure extrêmement vite, parce que dans le climat actuel, très volatile, très énervé, le moindre petit accroc devient énorme en très peu de temps.
Alors, est-ce qu'il n'y a pas quand même quelque chose d'étonnant à voir se reproduire, finalement, peut-être les mêmes erreurs ou les mêmes, la même manière de réagir à l'époque, il y a maintenant plus de 5 ans, au Gilet jaune, où il y avait eu, dans un premier temps en tout cas, un raidissement du pouvoir, parfois des mots très durs employés contre les gens qui, à l'époque, occupaient les ronds-points, avant finalement que la crise s'aggravant, le pouvoir ne décide bien de revenir à des solutions politiques et à apporter des réponses aux questions qui étaient posées. Est-ce qu'on n'est pas un peu en train de reproduire finalement le même type de schéma ?
Alors, on reproduit le même type de schéma, et ce qui est intéressant, c'est que dans le premier cas, le responsable, c'était clairement le Premier ministre. C'est-à-dire qu'Édouard Philippe avait adopté une attitude très juppéiste, avait refusé de considérer que les 80 km/h étaient un point vraiment bloquant. Il avait tenté un passage en force, mais on pouvait l'expliquer par une question de culture politique. Et ça restait au niveau du Premier ministre. Et le président, logiquement, en quelque sorte, avait pu être la clé de solution, de résolution du problème. Aujourd'hui, on n'est pas du tout dans une configuration de ce type qui est assez classique dans notre vie démocratique. On est dans une configuration totalement inédite où, en fait, on a un bras de fer entre le président et l'opinion et la très grande majorité des Français, y compris dans son propre camp. Et le bras de fer s'exerce y compris au détriment de sa propre majorité, de sa capacité d'agir à l'avenir. Enfin, on est dans quelque chose d'extraordinairement personnel et qui peut préoccuper parce que tous les contre-pouvoirs, finalement, ne parviennent pas à jouer. Donc il y a une sorte de blocage et on a un passage en force. Et le seul recours qu'on a aujourd'hui, c'est le Conseil constitutionnel. Si le Conseil constitutionnel qui prend une décision essentiellement politique, d'abord parce que il n'est pas composé de juristes, donc par définition, la décision sera politique. Si le Conseil constitutionnel censure la loi, là, on aura une issue pacifique, et il faut le souhaiter, de cette crise. Dans les autres cas de figure, on entre dans l'inconnu, quand même.
Alors, on reviendra peut-être tout à l'heure sur la décision très attendue du Conseil constitutionnel dont la réponse a été fixée au 14 avril, donc dans une quinzaine de jours. Mais d'abord, est-ce que le gouvernement n'avait pas quand même préparé ce bras de fer au sens où, c'est ce que disent certains experts, notamment en droit parlementaire ou constitutionnel, en choisissant le projet de loi sur la sécurité sociale, sur le vote de budget de la sécurité sociale comme véhicule législatif, au lieu de faire un projet de loi uniquement sur les retraites, est-ce que déjà le choix du véhicule, qui impliquait ensuite la possibilité d'encadrer le débat, de limiter même les temps de parole, et au final, bon, pour aboutir à la procédure du 49-3, est-ce que déjà ce choix-là n'était pas finalement une anticipation de ce qui allait être un bras de fer, notamment avec les syndicats ?
Alors, le gouvernement avait anticipé un bras de fer législatif. Il avait anticipé que le Parlement ne serait pas d'accord, qu'il aurait difficilement une majorité sur son projet. Ça avait été anticipé. Ce qui n'avait pas été anticipé, c'est l'union de tous les syndicats, des manifestations d'une ampleur historique, une motion de censure qui échoue à très peu de voix près, l'explosion en vol des LR, c'est-à-dire que le gouvernement comptait quand même sur un soutien des LR qui permettent de passer peut-être ric-rac, de passer peut-être à minima sur le rasoir, mais de passer. On a empêché le débat, mais on pensait pas devoir empêcher le vote. Hein. C'était pas le scénario qui était prévu. Et là, ce qui était inattendu, c'était tout ce contexte-là, qui en fait que les LR eux-mêmes, dans leur circonscription, ont une pression énorme pour voter, ne pas voter le projet, ou bien voter à la motion de censure. Donc en fait, ce que le gouvernement n'avait pas anticipé, c'était une espèce de réveil en fait de toutes les oppositions qui cristallisent autour de ce projet.
Que si on en est à ce niveau d'attente vis-à-vis du Conseil constitutionnel dont on en vient à espérer peut-être même le gouvernement lui-même une forme de censure pour bien dénouer cette crise qui atteint des niveaux historique en termes de tensions, de manifestations et de crispations, est-ce que c'est pas quand même jouer un petit peu à pile ou face à la fois le destin du pays et sa cohésion, mais aussi le quinquennat d'Emmanuel Macron qui s'en remettrait du coup à une décision dont on ne sait pas finalement de quel côté elle va aller.
Alors la décision du Conseil constitutionnel, elle va être prise de manière, on peut le penser, indépendante de l'exécutif dans une certaine mesure, c'est-à-dire qu'ils vont, ils ont une très grande marge de manœuvre. Le projet est attaquable sur beaucoup de points différents. Ils peuvent le censurer en totalité parce que, par exemple, les procédures de délibération n'ont pas été respectées. Parce qu'il n'y a pas eu, c'est la première fois sous la Ve République, de vote de l'Assemblée nationale sur ce projet, aucun. Ils peuvent attaquer sur tellement d'angles différents que le jeu est assez large pour eux. Après, oui, on joue le pile ou face, mais les contre-pouvoirs sont quand même faits. C'est Montesquieu qui disait ça pour que par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. C'est l'idée. Donc on peut espérer que ce mécanisme joue parce qu'il est pacifique, il est démocratique, il est prévu dans nos textes et que, au fond, le message que ça enverrait aux gens, hein, c'est un message qui est de dire « Regardez, notre démocratie fonctionne. Certes, c'est pas parfait, mais on n'a pas besoin de s'exprimer dans la rue, on n'a pas besoin de faire tout ça, on n'a pas besoin d'être à feu et à sang. On a un cadre juridique, un cadre institutionnel qui permet de réguler le pouvoir, tout simplement, et de limiter les pouvoirs du président de la République, ce qui paraît plus évident aujourd'hui. »
Oui, mais dans ce cas-là, on aurait un autre risque finalement, c'est que le président de la République et le gouvernement soient durablement fragilisés, parce que si par exemple la loi était censurée en partie ou dans sa globalité, probablement le gouvernement ne serait plus en capacité de remettre, si je puis dire, le sujet à l'ordre du jour, et donc ça serait quand même un échec cuisant.
Alors oui, ce serait un échec pour le président de la République et pour son gouvernement si le Conseil constitutionnel invalidait la décision, mais d'un autre côté, ça leur offre une porte de sortie qui n'est pas non plus déshonorante. C'est-à-dire qu'ils peuvent très bien se plaindre d'un gouvernement des juges, ils peuvent très bien dire « voilà, c'est scandaleux, cette réforme nécessaire a été invalidée », mais en réalité, ça leur rend service. Ça leur permet de ne pas perdre la face. Au fond, voilà, c'est le Conseil constitutionnel, ça n'est pas une défaite politique, c'est une défaite institutionnelle, c'est une défaite à un autre niveau. Ils pourront dire qu'ils vont reprendre leur projet pour le resoumettre. Ce serait pour eux la moins mauvaise des solutions, pour le pays en général, mais pour l'exécutif aussi, la moins mauvaise des solutions, parce qu'on se débarrasserait du problème et d'une mesure dont plus personne ne veut réellement aujourd'hui, pour passer à autre chose. Non, ce serait pas mal. La seule inconvénient, de toute façon, c'est que, quoi qu'il arrive, il n'y a pas de bonne porte de sortie, ni pour le président, ni pour le pays. Celle-ci, c'est l'une des moins mauvaises. Il n'y a plus vraiment de bon choix, il n'y a plus vraiment de bonne solution. On est très engagé dans cette crise. C'est un peu trop tard pour que ça se fasse sans dégâts, mais au moins, c'est la moins mauvaise des solutions à l'heure actuelle, quoi.
Alors, on voit quand même que, même dans les jours qui ont suivi l'adoption du texte par l'article 49.3, il n'y a pas eu tout de suite une volonté quand même d'apaiser. On se rappelle de cette intervention du président de la République à 13h qui semblait vouloir se débarrasser du problème, hein, dire que le sujet était derrière lui, derrière nous, hein, ça y est, c'est passé, bon, maintenant on se projette vers d'autres réformes. Et puis aussi quand même stigmatiser avec des mots un peu ambigus, hein, les manifestants. Alors, on comprend qu'ils dénoncent les violences, mais quand ils parlent de factieux, de factions, sans toujours bien distinguer ce qui relève du droit de manifester, du droit de grève, de certaines dérives violentes, est-ce qu'il n'était pas un petit peu en train de remettre de l'huile sur le feu ?
Si, en fait, le président de la République, il joue une partition qui est le coup d'après. Donc, ce qu'il veut, lui, c'est s'assurer que la prochaine fois, quand il aura des mesures à passer, il pourra compter sur l'opinion de droite et partant sur les LR. Donc au fond, il est dans un jeu extrêmement individuel, mais la clé de compréhension d'Emmanuel Macron, c'est sa logique individuelle. Il n'y en a pas d'autre. C'est l'intérêt de l'Élysée, l'intérêt du président. Donc, regarder ça permet de comprendre, en fait, beaucoup mieux ce qu'il fait. Et en l'occurrence, il cherche à mobiliser l'électorat de droite, âgé, qui est son cœur d'électorat, qui est aussi, en partie, le cœur d'électorat des LR, et de dire, voilà, moi, je suis le président qui tient face à la tempête, je vais réformer les retraites. Vous êtes de toute façon, vous, sociologiquement, en faveur de ça. C'est pour ça le choix des 13 heures de TF1, hein, c'est cohérent. Et vous pouvez me faire confiance pour la suite du mandat, me redonner des majorités. Au fond, il est très politicien, il va chercher la niche qu'il peut chercher pour pouvoir continuer à bénéficier d'une marge de liberté, parce qu'en l'état actuel des choses, il n'a plus aucune majorité possible au Parlement, donc il a les pieds et poings liés sur toutes les réformes qu'il voudra passer. Et à partir du moment où ça viendra du président, ce sera bloqué systématiquement. Donc il est obligé de chercher un bol d'air, c'est ce qu'il fait. Donc le fait d'adresser les violences, d'être dans une radicalisation de son côté aussi, ça vise à faire en sorte que l'électorat de droite finisse par se dire « bon, les LR étant ectoplasmiques dans leur démarche politique, on ne comprend pas, le président est là, il tient, donc on va être avec le président ». C'est vraiment le calcul.
Alors ça peut marcher s'il a un accord avec les LR au Parlement pour construire une majorité parlementaire dans le reste du quinquennat, ce qui reste quand même à faire pour l'instant, puisqu'on voit bien que les LR eux-mêmes sont divisés sur la conduite à tenir. Mais est-ce qu'on peut, alors vous me direz, relisez la constitution de la Ve République, il a les moyens de tenir, mais est-ce qu'on peut objectivement imaginer un président et sans majorité parlementaire gouverner encore pendant 4 ans contre à peu près 70 à 75% des Français?
Il peut tout à fait gouverner pendant 4 ans s'il ne fait rien. C'est-à-dire que si on a au fond une gestion des affaires courantes à la Chirac, qu'on puisse que sur cette base-là, on tienne. C'est-à-dire physiquement et politiquement, il peut tout à fait rester là où il est. Personne ne l'oblige à démissionner, il n'y aura pas de ce type de problème. Au pire, son gouvernement saute, parce qu'une censure finit par être votée, ce qui est absolument toujours possible. Mais c'est tout. Lui, il n'a pas d'urgence. Ce qu'il peut faire, c'est si la situation devient vraiment intenable, qu'il n'est plus en mesure de faire quoi que ce soit et que son image se dégrade à un point où finalement même pour sa propre image personnelle, pour sa postérité aussi, ça devient un sujet. Il peut toujours faire appel au peuple, dissoudre, faire un référendum, tirer un lapin du chapeau. Ça ne pourra pas être le même tour de magie qu'il avait fait ou de passe-passe qu'il avait fait à la sortie des Gilets jaunes, où le problème était exactement le même. C'est-à-dire que la crise avait fini par devenir une crise entre Emmanuel Macron et la population. Là, on est dans la même configuration. Mais le prix sera nettement plus cher. La communication ne suffira pas, donc il va falloir faire des actes. Tout ça, c'est dans la perspective où le président souhaiterait donc ne pas laisser cette image dans l'opinion, éventuellement passer des réformes supplémentaires. Et il y a un enjeu qui est l'éléphant dans la pièce, qui est Marine Le Pen en 2027, qui est très problématique pour deux raisons. D'abord parce que c'est l'extrême droite au pouvoir, hein, mais aussi, et je dirais même surtout, parce qu'on n'est pas du tout dans le cas de l'Italie ou de voisins qui auraient pu être confrontés à des poussées de l'extrême droite. On est dans un régime qui, comme on peut le voir, accorde pratiquement tous les pouvoirs au chef de l'État. Il y a très peu de contre-pouvoirs en réalité dans le pays. C'est le cœur de la dispute qu'on a en ce moment. Et donc la question c'est qu'est-ce qui se passe si l'extrême droite arrive en Europe à la tête d'un pays avec cette étendue de pouvoir, avec très peu de limites, très peu de feux rouges pour l'arrêter, et en plus avec une position dans le dossier majeur du moment en Europe qui est le conflit ukrainien, qui est une position pour le coup extrêmement ambiguë et voire, il faut le dire, carrément pro-russe par beaucoup d'aspects. Ce qui veut dire qu'on remet en cause l'alliance avec l'OTAN, l'alliance avec les États-Unis. On est dans un climat de quasi-guerre froide, voire de guerre froide. Donc ça a une importance majeure. Enfin, je veux dire, si on braque toute la population au point qu'elle vote extrême droite en 2027, on provoque quasiment une crise européenne, enfin, c'est pas quasiment, on provoque une crise européenne, on confie à l'extrême droite des pouvoirs qu'elle n'a jamais eu en Europe depuis, dans cette étendue avec cette force depuis la Seconde Guerre mondiale, et on le fait dans un climat absolument délétère au plan international. Donc je sais pas, si l'Élysée réfléchit de cette façon, mais si on pose les choses de cette façon, ce que fait la presse internationale, on est forcé de se dire qu'à un moment donné, soit le Conseil constitutionnel joue son rôle, on rassure tout le monde sur le fait qu'il y a des garde-fous démocratiques, on revient au dialogue, on se met autour de la table et on trouve une solution, soit on va devoir faire un appel au peuple, et là on rentre, on rentre dans un schéma compliqué, mais après tout, pourquoi pas, voilà. Ça permettrait peut-être de calmer les choses. Au pire, il y a une cohabitation ou un gouvernement de coalition, parce qu'à l'heure actuelle, on ne voit pas qui au Parlement pourrait vraiment avoir une majorité. Et le président fait 3-4 ans de mandat avec une opposition au pouvoir, mais lui s'en sortira finalement grandi. Les Français aiment bien la cohabitation. Enfin, ça peut aussi permettre qu'un modéré accède au pouvoir en 2027 sur une base différente. Voilà. Il va falloir qu'on soit très intelligent collectivement. Et là, au cours des dernières années, c'est pas l'intelligence qui a prédominé dans le débat français. Donc, voilà.
Donc prudence et vigilance, parce que même si le pire n'est jamais certain, on n'est pas à l'abri d'une mauvaise surprise. On l'a vu dans d'autres pays en Europe.
Oui, là, on leur actue. Mais moi, ce qui me préoccupe dans cette évolution vers l'extrême droite, c'est pas... Les gens peuvent voter extrême droite tout simplement parce que c'est la seule alternative disponible à part la NUP. Voilà. En gros, il y a la NUPES et puis il y a l'extrême droite. L'extrême droite est mieux positionnée que la NUPES pour prendre le pouvoir. Donc, mathématiquement, on se dit que pourquoi pas Marine Le Pen, c'est un scénario qui devient de plus en plus probable. Moi, ce qui me préoccupe davantage, c'est que je pense que les gens s'habituent à cette idée au sein de la classe dirigeante, au sein des élites. Quand tu entends, par exemple, quand on entend des gens comme... Geoffroy Roux-de-Bézieux, le président du MEDEF, qui dit « bah oui, si le RN monte, finalement, c'est un mal nécessaire », je crois que c'est son expression, parce qu'il faut bien passer cette réforme des retraites et que c'est plus important, finalement. Ça montre quelque part que le travail de banalisation qu'elle a fait a fonctionné, que c'est moins considéré comme une menace, qu'on s'habitue quelque part à cette idée et que le prix à payer ne paraît plus aussi élevé. Voilà.
Merci beaucoup Philippe Moreau-Chevrolet. Bon, c'était pas la note la plus optimiste de notre entretien, mais bon, il faut peut-être quand même se dire les choses aussi.
Je suis extrêmement optimiste. Hein. Je pense que le Conseil constitutionnel va jouer. Je pense qu'on va sortir démocratiquement de cette crise. Je pense qu'en revanche, si on ne rappelle pas les enjeux et les risques, on ne prendra pas la bonne décision. Donc, faisons le scénario du pire juste pour qu'on se dise bien les choses. Ce qui est en jeu, c'est ça. Après, on a tout à fait les moyens de l'éviter. Il faut l'éviter, hein. Et je pense qu'on va l'éviter.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Philippe, pour avoir répondu à mes questions. Je rappelle que vous êtes fondateur de MCBG Conseil, que vous êtes un expert en communication politique et puis auteur aussi d'ouvrages, professeur à Sciences Po, et qu'on a déjà eu le plaisir de vous recevoir dans l'émission pour partager avec vous nos questionnements et vos analyses. À très bientôt en tout cas.
Et si on en parlait ? Du temps, de l'information, des explications. Une émission présentée par Alexis Bachelet.